La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
À la une de l'actualité internationale ce matin, un traité de libre-échange qui ne dit plus son nom.
Et oui, exit l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain. Voici enfin conclu, après des mois de crispation, l'accord États-Unis-Canada-Mexique. C'est le Financial Times qui note cette modification d'intitulé qui en dit long sur la logique à l'œuvre dans l'Amérique de Donald Trump. Les négociateurs canadiens et américains sont donc arrivés à un terrain d'entente tard dans la soirée d'hier. La nouvelle est arrivée d'autant Ottawa, où, note le quotidien québécois Le Devoir, Justin Trudeau n'a pas hésité à convoquer ses ministres à 22h pour officialiser la nouvelle. Et forcément, la question ce matin pour les journaux de Toronto à Montréal, c'est de savoir quelle concession a dû faire Trudeau pour arracher la signature de Donald Trump. Réponse, croit savoir Le Devoir, il a cédé sur les quotas laitiers. Le Canada accepte d'ouvrir plus largement aux importations américaines son marché des produits laitiers, jusque-là très protectionniste, nous explique le Globe and Mail. Mais ce qui compte, en dernier ressort, selon le quotidien de Toronto, c'est ce que Justin Trudeau a obtenu en échange, principalement, eh bien, la paix commerciale avec ses voisins d'Amérique du Nord. À en croire l'analyste Campbell Clark, mieux vaut un accord médiocre que pas d'accord du tout. Car le Canada, nous dit encore Le Devoir, évite à ses exportations d'acier, d'aluminium, d'automobiles la menace des surtaxes douanières brandies par Trump depuis des mois de négociations. Et sur l'autre sujet de discorde, le mécanisme de résolution des conflits commerciaux, eh bien, apparemment, Ottawa a réussi à obtenir le statu quo. Mais la satisfaction, note enfin le Financial Times, elle s'exprime surtout au Canada depuis hier soir avec plusieurs officiels qui saluent une grande victoire du président Enrique Peña Nieto. Il faut dire que ce dernier voulait absolument que l'ALENA nouvelle génération soit ratifiée avant le 1er décembre quand le Parlement et la présidence du Mexique basculeront à gauche.
Et puis l'Indonésie, malheureusement Camille, dans la presse, que peuvent les pouvoirs publics face au déferlement d'un tsunami? La question taraude la presse indonésienne 3 jours après ce séisme et ce raz-de-marée qui ont fait plus de 830 morts.
Et aux images de dévastation sur l'île de Sulawesi, en une des journaux de l'archipel, s'ajoutent ces interrogations portées donc par le Jakarta Post. Comment un pays aussi exposé aux colères de la terre, séisme, volcan, tsunami, peut-il avoir aussi peu tiré les leçons des précédentes catastrophes naturelles? Une dévastation de plus, titre le journal, manière de dire eh bien qu'un cataclysme en chasse un autre en craignant déjà le prochain. D'autant plus rageant, nous dit le Jakarta Post, que le bilan humain va considérablement s'alourdir dans les prochaines heures, à mesure que les secours arrivent à s'approcher des grands immeubles et des centres commerciaux éventrés des villes côtières de Palu et de Donggala. Cette île de Sulawesi, d'ailleurs, est la plus exposée au monde au risque de raz-de-marée induit par des tremblements de terre. Et pourtant, vendredi, le système d'alerte tsunami n'a été activé qu'au moment où la vague touchait les terres. Pas assez de capteurs sismiques installés dans la région, a justifié impuissante la chef de l'agence indonésienne de géophysique, citée par le Jakarta Post, toujours. Le journal qui ne rejette pour autant pas toute la faute sur les politiques. Il rappelle que le dernier tsunami en Sulawesi a frappé en 1990 et que depuis, la connaissance des mesures basiques de survie s'était un peu perdue dans la sagesse populaire malgré les campagnes de prévention gouvernementale. Le journal a plus de mal à pardonner par contre les erreurs d'urbanisme, ces constructions d'écoles ou d'immeubles réalisées tout près des côtes malgré le risque, avec comme terrible illustration cette grande mosquée de Palu qui se vantait d'être tout près de la plage et qui a aujourd'hui les pieds dans l'eau, sa belle coupole turquoise effondrée. Les Indonésiens, nous dit enfin le Jakarta Post, auront du mal à digérer ces images d'équipes de secouristes portant ostensiblement les logos des grands partis politiques, rivalisant de sollicitude envers les victimes devant les caméras de télévision, car la campagne des élections générales d'avril prochain vient de commencer en Indonésie. La moindre des choses, conclut l'éditorial, aurait été de suspendre les opérations de communication politique le temps de faire face ensemble à la dévastation.
Et puis en Macédoine, Camille, un oui particulièrement timide pour le changement de nom.
Changement de nom de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en République de Macédoine du Nord. Vu de chez nous, la nuance peut sembler légère et force est de constater que le référendum d'hier n'a pas soulevé les foules, note la Nova Macedonia, qui rappelle les résultats. Plus de 90% de oui au changement de nom, mais 2/3 des électeurs macédoniens qui n'ont tout simplement pas pris part au vote. Apparemment, le Premier ministre Zoran Zaïev a décidé de ne garder que la première partie du résultat, se satisfaisant de l'approbation massive de cet accord qu'il avait conclu avec le voisin grec. Il faut rappeler avec la chaîne macédonienne 24 Vesti que l'enjeu du référendum se voulait beaucoup plus large, avec comme question l'acceptation bien sûr de l'accord avec la Grèce et plus largement le rapprochement de la Macédoine avec l'OTAN et l'Union Européenne. Côté grec, le journal Ekaterini note que ce grand rêve d'avenir européen et occidental ne fait plus rêver grand monde, avec également cette impression que les électeurs n'avaient de toute façon aucun choix consultatif. Et d'ailleurs, le fait que le vote ait attiré très peu de monde, moins de 50% de votants, ne changera rien au résultat et à la suite du processus, a dit Zoran Zaïev, le Premier ministre macédonien, qui en appelle désormais au Parlement pour valider ce que le peuple n'a pas suffisamment approuvé. Enfin, l'éditorialiste grec Vassilis Nedos nous dit que cet échec confirme que la perspective donc d'un avenir occidental ne fait plus rêver grand monde, que les vieilles haines nationalistes, surtout en l'occurrence en Macédoine, le réflexe anti-grec, ont de beaux jours devant elles.
Merci beaucoup Camille Magnard pour votre revue de presse internationale. On la retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr, 7h41.